You are ready?
Ok. Allez-y, mais doucement, hein. Prêt? Allez, roulez.
Molo, molo. Molo, molo. Molo, molo.
Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit molo sur le destroy.
C'est pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Ça y est, tout le monde m'entend? Tu m'entends pas? Peut-être qu'il faut appuyer sur le bouton rouge là. Tu m'entends là? C'est bon? Je peux commencer? T'es chaud? T'es prêt? T'as bu ton café? T'es bien assis? Parce que là, ça va dépoter cette fois-ci. Cette semaine, on envoie du lourd.
Dès que le réveil sonne, vous vous asseyez, vous vous mettez en position donc 90 degrés. Associé à cette position, il y a deux choses que vous pouvez faire. La première étant de boire un grand verre d'eau que vous aurez préparé la veille à côté de vous, à côté de votre lit. Puisque le corps se déshydrate durant la nuit, c'est intéressant en fait de le réhydrater dès le réveil. Ça va vous aider un petit peu à avoir une activité cérébrale, on va dire, plus vive, plus cohérente. Et la deuxième chose que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre votre réveil plus loin de vous. Un réveil que vous ne pouvez pas atteindre en étant allongé, que vous pouvez atteindre qu'en étant en position assise. C'est pour ça d'ailleurs que je vous recommande de ne pas forcément utiliser votre téléphone comme réveil, parce que on a tendance à le garder juste à côté de nous, à portée de main. Donc un autre réveil, il y en a à pas cher sur tous les sites comme Amazon, les sites internet ou près de chez vous. Et celui-ci, ce petit réveil-là, vous le mettez en fait à portée de main quand vous êtes assis uniquement. Déjà, si vous réalisez ces trois actions, vous allez voir que votre phase de mise en mouvement va être très grandement facilité.
Alors attention, je vous préviens tout de suite, il y a du costaud, il va falloir suivre. Donc troisième place, une personne qui confond certainement véganisme et survivalisme et qui nous dit « Les véganes, pour être autosuffisants, doivent manger leurs excréments et boire leur urine. Qu'ils aillent au bout de leur démarche au moins. » Donc moi, lui, déjà, j'ai bien envie de lui dire d'aller boire de l'eau, comme disaient les jeunes sur Twitter, hein, parce que j'ai l'impression que ça a l'air d'être compliqué la vie pour lui, quoi. Mais bon, bref, on passe vite à la suite, vous allez voir, ça va vous étonner. Donc, pourquoi ça va vous étonner, vous vous dites? Bah, tout simplement parce que cette personne a réussi à faire encore mieux. Et du coup, elle se retrouve aussi en deuxième position de ce top. Bon, alors là, cette fois-ci, elle nous parle de sexualité. Et elle nous dit « Les véganes sont anti-viande et ne font plus l'amour car ils refusent d'assumer le plaisir provoqué par un bout de viande. » Alors là, sur ce coup, je sais pas si c'est nécessaire de lui expliquer que le véganisme s'attaque pas encore au problème de l'exploitation des pénis. Par contre, je pense que de toute façon, c'est peine perdue avec lui, donc on peut enchaîner, on va en finir.
Aujourd'hui, la bio, ça, c'est sûr que c'est un idéal à atteindre d'avoir une agriculture biologique partout, sur toutes les terres, à l'échelle mondiale. Oui, dans la technique, je suis d'accord. Après, je ne crois pas que l'agriculture, on la fera évoluer en lui mettant des cahiers des charges. Je crois plutôt qu'on la fera évoluer en formant mieux les agriculteurs, en intégrant des cours sur la biodiversité des sols dans les formations, en leur faisant comprendre tous les services que le sol peut leur rendre dans leur itinéraire agricole. Et je crois que c'est plus comme ça, en tout cas, qu'on fera évoluer les choses.
Et si l'appel au boycott pur et simple de l'huile de palme ne semble pas être une bonne idée, le choix du Nutella comme bouc émissaire me semble être encore plus à côté de la plaque. Pourquoi ? Déjà parce qu'appeler publiquement au boycott d'une marque, c'est avant tout interpeller cette marque pour qu'elle fasse d'éventuels changements. Or là, on a une marque qui a fait partie des premières à travailler avec des ONG et qui a donc réussi depuis à mettre en place une méthode de traçabilité de A à Z de la chaîne de production lui permettant de prouver que l'huile de palme utilisée n'est pas issue de la déforestation. Donc quitte à interpeller publiquement des marques pour faire pression sur elles, parce que ça marche, hein, les industriels commencent à comprendre que ce qui est mauvais pour l'environnement est aussi mauvais pour le business de plus en plus. Et bien dans ce cas-là, interpeller PepsiCo, par exemple.
Le troisième pôle, c'est l'adaptation du corps à des environnements extrêmes. Pour caricaturer, au lieu d'agir sur l'environnement, on va agir sur l'adaptation de l'homme un nouvel environnement et à ses capacités à s'adapter à ce nouvel environnement, compte tenu qu'on est dans une époque de crise écologique imminente. Lorsqu'il avait été fondé en 1960, le cyborg désignait un homme augmenté technologiquement afin de survivre aux conditions extrêmes d'un voyage spatial. On voit que là, il ne s'agit pas seulement de la question du voyage spatial qui, par contre, redevient à l'ordre du jour, mais de s'adapter à cette nouvelle, à nos nouvelles conditions climatiques ou autres.
C'est le concept d'énergie renouvelable. Pour produire de l'électricité, vous transformez par exemple l'énergie du vent. Mais une fois que vous avez transformé l'énergie cinétique du vent en énergie électrique, vous ne réutilisez pas cette énergie électrique pour refaire du vent. Vous ne revenez pas en arrière. Donc votre énergie, elle n'est pas renouvelable. En réalité, une énergie renouvelable, ça n'existe pas. Le terme est impropre. Une fois qu'elle est transformée, elle est transformée et basta. On devrait plutôt parler d'énergie à faible émission de CO2, par exemple.
Phrase à compléter.
Le podcast, c'est bien, mais ce serait mieux si on n'avait pas des jobs à côté.
Ça fera jamais une thune. Y a pas beaucoup d'images.
Le podcast, c'est bien, mais arrêtez les émissions de 3 heures.
Le podcast, c'est bien, mais il faudrait plus de podcasteuses.
Ça reste beaucoup dans l'entre-soi, malheureusement. Mais ce serait cool un jour qu'il y ait des gens qui viennent comme ça, etc., et de vraiment démocratiser le podcast. Et ça voudrait dire aussi accroître la visibilité des podcasts indépendants.
Mais en fait, les vrais pionniers, c'est oui. du podcast.
On les a tous entendus.
On les a tous entendus, mais personne, enfin, ils n'ont jamais touché un centime de sub, ils ne sont pas dans les festivals, et ils ont plus d'auditeurs que France Culture et Arte Radio réunis. Mais enfin, voilà. C'est le donjon de Nullbuck qui fait ses fictions dès 2000 en MP3. Mais nous, en 2002, disons qu'on est les premiers à rémunérer des gens et à faire des objets radiophoniques disponible en téléchargement. Et par exemple, cette histoire du téléchargement, elle est très drôle. C'est Christophe, moi je connais rien au web, hein. Et Christophe, il me dit, moi j'aime bien écouter en streaming, mais des fois j'aime bien écouter les choses plus tard, donc c'est bien de télécharger et de pouvoir aller. Et je dis, ouais, mais on réfléchit pas une seconde qu'on va se taper toutes les sociétés de droit d'auteur, le service juridique d'Arte, tout le monde va nous tomber dessus. Parce qu'en 2002, on a oublié ça, le mot téléchargement, ça veut dire pirate. On est vraiment considérés comme des voyous. Tout le monde nous crache dessus parce qu'on permet à notre truc d'être téléchargé, quoi. Et alors qu'en fait, on a inventé le podcast, quoi. Enfin, on a inventé ce truc-là, bon.
Et à ça, même si vous dites, j'ai tant de personnes qui téléchargent mes fichiers, tant de personnes qui visitent, après, voilà, vous avez des fichiers qui peuvent faire 5 minutes comme une heure, et Google Analytics a la bonne idée de préciser le temps que les gens passent sur vos pages, et quand vous pensez avoir 1000 visiteurs, et qu'en fait, vous en avez 100, que vous pensez qu'ils écoutent tous vos podcasts, même s'ils font que 5 minutes, et qu'en fait, ils écoutent que 30 secondes, là, vous relativisez vachement la chose, vous arrêtez de vous la péter, vous arrêtez de croire que vous êtes à la radio en train de parler à des centaines d'auditeurs, et vous rendez compte que vous parlez à 4 pelés qui écoutent 30 secondes de ce que vous faites par curiosité, parce qu'ils n'avaient rien à faire et qu'ils s'emmerdent, quoi.
Donc si toi, de ton côté, tu aimes faire quelque chose et que tu as envie de le partager avec des gens, à la limite, ne va même pas voir les stats. Peu importe de qui t'écoute, enfin, de combien personnes t'écoutent, peu importe, regarde plutôt les retours que tu peux avoir, même si, comme tu le dis, ils sont très rares, et je peux t'assurer que c'est effectivement le cas, ils sont très très rares, voire des fois, on n'a pas de retour pendant des semaines. Mais c'est ça qui te donne la motivation, c'est ça qui te dit « Ah ouais, là c'est bien, là c'est pas bien ». Donc voilà, te focalise pas sur les stats, fais ce que t'as envie de faire. Si tu le fais pour les stats, c'est que tu dois pas le faire, honnêtement, c'est que tu dois pas le faire. C'est que t'as un produit commercial à mettre en place derrière. Si tu te bases que sur les stats et si c'est ta seule motivation, c'est que ton but n'est pas juste de partager gratuitement, mais de vouloir faire de l'argent avec. Et dans ce cas-là, le podcast, c'est pas la bonne solution parce que pour lancer un produit commercial avec du podcast, on a vu aujourd'hui que c'est plutôt difficile et que c'est plutôt un produit qui accompagne d'autres choses que quelque chose qui va générer de l'argent lui-même. Ils sont peu à pouvoir vivre de ça et on comprend pourquoi.
On devrait d'abord avoir un produit, d'être suffisamment satisfait de son produit avant de se dire, bon, en fait, comment je peux faire pour augmenter mon audience? Ça paraît trivial, mais j'ai un peu peur que. Bah non, c'est bien qu'on ait toutes ces réflexions sur l'audience, c'est bien qu'on partage ces chiffres, c'est bien qu'on
mais
avance.
Dans quelle culture on est, en fait? Est-ce qu'on est dans la culture de l'audience ou dans la culture du contenu?
C'est ça. Et les deux sont pas incompatibles, non. Mais il faut aussi mettre de l'eau dans son vin et se dire, bon, bah voilà, oui, peut-être que, je sais pas, RK fait moins d'audience que je sais pas quel autre.
C'est probable.
C'est probable. Quel autre.
Ce qui veut pas c'est plus mauvais.
Mais on s'en fout en fait parce que c'est déjà c'est pas les mêmes formes, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes publics et typiquement une niche très bien exploité peut satisfaire beaucoup plus les gens et en plus rapporter plus de thunes. Donc si on veut juste vraiment avoir cette vision,
on parle de thunes.
Mais voilà, non, mais c'est vrai, enfin globalement
on y viendra,
ça,
on y viendra.
Se monétise une niche bien définie se monétise mieux qu'une meilleure audience mais pas définie.
Mon but à la fin, ça serait d'effacer mes réseaux sociaux complètement et que créer les gens qui me suivent par mon podcast, et grâce à mon podcast, je dirais où je joue peut-être, et ça serait le but à terme, c'est ça, parce que si tu veux, les réseaux sociaux, ça crée trop de problèmes. Il y a les gens qui sont déçus parce que tu partages pas un de leurs trucs. Il y a des sales de temps en temps qui te prennent la tête parce que t'as pas partagé un truc ou je sais pas quoi, et t'as envie de leur dire mais si j'avais pas eu de réseaux sociaux et que j'étais très drôle, est-ce que je pourrais quand même venir dans ton lieu parce qu'en fait j'ai l'impression ou est-ce que tu serais quand même mon copain et les réseaux sociaux pour moi amènent plus de problèmes qui sont faux d'ailleurs, on se concentre sur les mauvaises choses. Et du coup, voilà, les réseaux sociaux, c'est un truc qui est pas agréable pour moi, mais ouais, qui fait partie aujourd'hui de l'univers. C'est-à-dire que c'est notre moyen de com, c'est notre moyen de remplir les salles, c'est notre moyen de montrer qui on est. Donc c'est important aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est en train de niquer complètement beaucoup de domaines parce que les gens veulent faire la différence avant de penser à ce qu'ils veulent faire vraiment, en fait.
On a tout à portée de main en fait, ne serait-ce que pour chercher la définition d'un mot ou pour faire du shopping. On fait tout de chez soi, ça évite de sortir. Après, ça a ses avantages comme ses inconvénients, c'est que on a moins d'échanges avec les gens.
Internet, c'est d'abord la mobilité, en tout cas de la manière dont je m'en sers. Ouais. C'est de manière en mouvement, quoi. D'ailleurs, j'étais en train de chercher un truc à l'instant même. Hein, c'est ça. Ouais. Donc je vous dirai pas ce que je cherchais, mais en marchant. Donc Internet en marchant.
Ah bah beaucoup de choses. Ça fait gagner du temps. Ça donne plein d'informations. Et c'est en même temps dangereux. Voilà.
Je pense que Google est le nouveau monothéisme.
Tu crois ?
Qui va supplanter tous les
c'est
autres.
C'est drôle.
Bah évidemment, c'est sûr. Enfin, tu vois comment on va tirer la manche de Twitter pour se plaindre, pour se confesser, pour Facebook. Enfin, tu vois comment les gens utilisent ça. Ils utilisent ça comme on utilisait le confessionnal. Ils utilisent ça comme.
C'est vrai.
Bah ouais, c'est.
Je l'avais déjà vu. T'en as parlé sur scène comme ça du confessionnal avec Facebook.
Non, je suis en train de l'écrire pour le spectacle. Ouais. C'est vraiment ça. Enfin, j'ai vraiment.
Pardon Facebook, j'ai fauté.
Ouais, c'est ça. Pardon Facebook, j'ai fauté. Enfin, tu vois les espèces de textes grandiloquents comme ça, qui sont des espèces de professions de foi aussi. Et puis. Oui, je pense que après, ce qui est compliqué, ce qui est très bizarre, c'est que. Mais c'est l'individu qui est lui-même son propre salut, tu vois. Donc tu vois, c'est une espèce d'auto-religion en fait, une espèce de religion de soi en fait. Donc c'est là où justement ça tourne en boucle et que on ne peut que s'éteindre en termes de valeur, puisque si tu es tourné que vers toi, effectivement, il peut plus y avoir de vrais discours collectifs sincères et puissants. Il peut pas, enfin tu vois. Donc ils nous ont bien niqué, ouais.
Alors à l'époque, d'abord c'était passible de prison déjà, Aida. C'était absolument pas admis, c'était pas, c'était grave quoi de signer ce manifeste, c'était grave. Voilà, donc c'est aussi une des raisons, parce que moi j'étais un peu rebelle, grâce toujours à mon père qui était toujours à l'avant-garde des choses et qui m'a beaucoup encouragée aussi, pas encouragée mais il m'a félicité même d'avoir signé ce manifeste. Voilà, à l'époque, on risquait quand même des choses. Moi, je n'ai pas eu des proches qui ont changé le regard sur moi quand j'ai signé ce manifeste. Il faut dire qu'à l'époque, je n'étais pas connue du tout. Hein. J'étais une jeune actrice que personne ne connaissait. Je n'aurais pas imaginé, d'ailleurs, à ce moment-là, que ça aurait eu le retentissement que ça a eu plus tard. Mais ça a été très important, ce manifeste, parce que quelques années après, ça a débouché sur la loi Veil. Et s'il n'y avait pas eu ce manifeste, je ne sais pas si cette loi serait passée quelques années plus tard. Donc oui, c'est important de prendre des responsabilités sur des sujets graves quand on peut le faire.
Pour s'accommoder de cet inconfort qui se manifeste quand on essaye de changer sa vie extérieurement ou intérieurement, la première chose, c'est d'avoir conscience de ce mécanisme et savoir l'identifier comme tel, c'est-à-dire voir arriver des pensées et des émotions, les mettre dans le contexte de ce changement qu'on essaye d'opérer et comprendre que c'est ces mécanismes de notre cerveau primitif qui tentent de nous garder en sécurité et dans une cohérence cognitive et comprendre ce qui est en train de se tramer. et accepter cet inconfort comme faisant partie du deal quand on essaye de changer. Donc ne pas y résister, ne pas s'en offusquer, ne pas s'en alarmer, mais plutôt s'équiper de pensées qui vont nous permettre de trouver du confort dans cet inconfort. Donc on peut penser, par exemple, moi j'aime bien dans ces cas-là me dire « je suis en train de traverser la rivière ». Donc c'est la fameuse rivière de misère dont je vous parlais à l'instant. C'est se dire « voilà, je suis en train, je quitte une rive qui est familière, qui est connue, et j'ai envie d'aller sur cette autre rive qui est en face, qui m'attire, qui m'intéresse, qui va enrichir ma vie. Mais pour l'instant, je suis au milieu de la rivière, et donc il faut juste pas que je me décourage. C'est difficile, mais je serai de l'autre côté, je serai contente. »
Mais tu sais, okay, que pour revenir au truc d'éternuer, apparemment, quand t'as envie d'éternuer, tu dis « je vais éternuer » et t'éternues pas du coup.
C'est vrai.
Ouais.
D'accord.
Et je l'ai testé sur moi et ça marche pas trop mal.
D'accord.
Voilà. J'aime parler de ma vie, de mon œuvre.
J'aime ces news qui sont ponctuées de petites anecdotes comme ça.
Des petits bouts de vie. Ouais, quoi, on sent que j'ai une vie intéressante.
La règle avant, c'était « non, tu peux pas bouger ». La règle depuis l'arrêt Bosman, c'est oui, maintenant tu peux bouger. Alors, et depuis, après, ce qui s'est passé, bah, c'est que les clubs qui avaient de l'argent, ils se sont mis à recruter à gauche, à droite, à faire des équipes qui sont devenues de plus en plus compétitives, qui sont devenues de plus en plus sexy. Parce que si tu veux, comme ils accumulaient des stars, ça devenait intéressant. Du coup, les télés se sont dit waouh, ça devient intéressant. Du coup, les télés se sont mises à acheter les compétitions de plus en plus chères. Et du coup, ça fait un cercle vertueux ou vicieux, on y reviendra si tu veux, mais vertueux, c'est-à-dire que plus t'as d'argent, bah, plus t'as de transferts, plus t'as de transferts, plus t'as de meilleures équipes, plus t'as de meilleures équipes, plus t'as de meilleures compétitions, plus t'as de meilleures compétitions, plus les télés payent cher.
C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça peut être la poule et l'œuf, peu importe. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir de grand texte critique à un moment où le cinéma n'est pas grand, et le cinéma n'est pas grand s'il n'y a pas aussi grand texte critique. C'est-à-dire que j'ai l'air un peu puriste, un peu radical, mais je crois intimement à ça. C'est-à-dire que il faut à un moment donné avoir cette espèce de couple là. Et aujourd'hui, les regards, parce que un regard ça se forme. On n'a pas la science infuse. On peut avoir des révélations. On peut avoir des chocs esthétiques. On peut avoir le syndrome de Stendhal. Mais il ne faut pas espérer que la classe moyenne soit victime du syndrome de Stendhal toute la journée. C'est pas vrai. Parce qu'en plus, on a souvent les goûts qu'on peut, malheureusement, et pas qu'on veut. C'est pour ça que tu dis, je reviens, t'as mis juste là-dessus, quand tu dis tout à l'heure, l'adolescent ou le spectateur moyen aujourd'hui, il est devant Netflix ou sa plateforme de streaming, et il a une offre considérable, ça veut rien dire.
Je suis d'accord.
Qu'est-ce qui ferait qu'il va aller dans la catégorie classique vers un film d'Anthony Mann? Il n'ira jamais. Donc en fait, c'est une offre virtuelle, mais qui n'est jamais réalisée. Et donc il ira toujours vers les mêmes si on lui a pas donné envie, via des textes, via une rencontre, via une, ça peut être une forme moralisée, des ciné-clubs.
Non, mais je tiens à le dire, ça. C'est que quand on développe des films particuliers en France, on se tape l'aristocratie du cinéma français. Enfin, moi, j'étais régulièrement très humilié sur Martyr parce que les filles vous rencontrent parce que quand même, elles se disent, ah, c'est un rôle, c'est un metteur en scène, on sait jamais. Elles vous rend. Puis après, quand elles lisent le script, c'est comme si je leur avais proposé un porno pédophile. Ouais. Il y a une aristocratie du cinéma français. Et quand nous, on est lecteurs de Mad Movies et qu'on essaie de faire des films d'horreur, on se la tape de plein fouet. Et là, on a un sentiment de classe sociale très très fort, quoi.
Si la cinéphilie, c'est parler au centre de soi-même, ça m'intéresse pas. Je fais des livres, on fait des colloques, on est lu par nos semblables. Mais ce qui est intéressant, c'est l'horizon. Et l'horizon, c'est quoi? C'est celui qui, dans la rue, dans le métro, dans la classe, en première ou à la fac, etc., n'a pas grandi dans un milieu forcément ultra éduqué, favorisé, et qui va avoir la révélation du cinéma. Parce que le cinéma, c'est pas un petit divertissement du dimanche.
Oui, bien sûr. Mais là,
c'est quelque chose que j'ai toujours moi appris de gens comme Truffaut, Godard, Scorsese, etc. Le cinéma, c'est un truc vital, c'est extrêmement important, comme l'art est extrêmement important. Moi, j'ai appris l'essentiel de ce que j'ai appris, je l'ai appris à partir du cinéma. Et le discours aujourd'hui, moyen évidemment, c'est que, à cause de l'industrie culturelle, du capitalisme culturel, le cinéma est devenu un divertissement, plutôt un objet de culture. L'art, c'est pas la culture.
Pendant tout un moment, je comprenais pas pourquoi Kevin s'était devenu si délicat. Et en fait, il y a vraiment une cause à effet logique qui se comprend. C'est que comme en 1990, 91 et 92, c'est là où il y a eu le plus de prénoms Kevin de donner. En fait, ils ont voulu faire un, et souvent pour la même origine, hein, à cause de Kevin Costner, ils ont voulu en fait donner ce prénom à de nombreux enfants. Et quand tous ces enfants sont arrivés à l'adolescence en même temps, bah, il y avait énormément de Kikoulol finalement et de Keke, mais finalement, le prénom qui ressortait le plus souvent, c'était Kevin. Parce qu'en fait, c'était là où il y en a le plus, dans la même tranche d'âge. Et c'est ressorti principalement en Allemagne. Après, ça a déteint un peu sur la France, sur l'Autriche. En Hongrie aussi, il y en avait. Voilà. Et c'est devenu, comme c'est toujours le Kevin, et en dessous, il avait un commentaire en langage SMS qui disait « Ah non, mais toi, t'es trop de la merde, ton truc, machin. » Et bah forcément... Les gens, ils ont tout de suite dit, en fait, tous les cas sociaux et les cons, quoi, c'est les Kevin, parce qu'ils s'appellent tous comme ça. Alors qu'en fait, c'était juste une majorité de personnes qui s'appelaient comme ça et qui représentaient les Kevin.
C'est ça l'histoire de France, et c'est une partie de l'histoire de France, mais c'est surtout un élément qui différencie beaucoup la France de ses voisins, y compris d'ailleurs des États-Unis, toujours cités comme le pays du melting pot. Il n'y a pas de métissage aux États-Unis entre les Noirs et les Blancs. Ça fait 350 ans qu'ils vivent ensemble. On est toujours entre 5 et 10% de mariages mixtes. Et encore, ça vient de monter dans les deux dernières décennies. En France, il y a des Français et des Maghrébins en métropole qui vivent ensemble depuis 40 ans, 50 ans. On est à 25-30% de mariages mixtes. Pour les filles maghrébines, alors que c'est interdit par l'islam, et plus important que l'islam, par la culture arabe. Et en même temps, on a un niveau de discrimination, un niveau de Front National, etc., extrêmement élevé. Donc on a un paradoxe. Ce paradoxe, moi, je ne l'explique que par un modèle qui est un modèle original. On est dans un système d'assimilation. Ça déplaît, le mot est violent, le mot, c'est vrai, mais le processus est violent. Et d'ailleurs, il est très destructeur. Et moi, je me suis toujours interrogé sur pourquoi les pères arabes que je connais au Maghreb, avec de l'autorité, avec de la fermeté, avec de l'influence sur leurs enfants, ici, se retrouvent totalement démunis. Mais c'est parce que, très largement, les enfants sont rentrés dans l'atmosphère de la culture française et pas les parents. Et ça, ça crée un hiatus générationnel qui est très violent et très puissant.
Et petit à petit, DC s'est retrouvé avec un pool de séries un peu déviantes, un peu adultes, et qui collaient plus très bien au label DC. Et donc, ils ont missionné Karen Berger, qui a créé le label Vertigo à partir de titres existants déjà. Mm-hmm. Swamp Thing est devenu un titre de Vertigo, Sandman aussi. Sandman paraissait déjà avant que le label soit créé, et ils ont mis tout ça dessous.
Donc, ouais, il a clairement infusé cette nouvelle ligne sans en être le
créateur. Il a fait passer le comics de super-héros et le comics, en fait, le fascicule multicolore américain à l'âge adulte. C'est quasiment Alan Moore à lui tout seul qui a fait ça, moi je pense.
L'orchestre philharmonique de Tokyo, ici à l'œuvre sur deux thèmes de Sailor Moon que j'avais medleyisé ensemble. D'un côté, il y avait le Moon Prism Power Makeup Theme, qui est le thème des transformations, et ensuite Moonlight Detsetsu, qui est évidemment le générique culte de Sailor Moon.
Ceci dit, de la matière qui tombe du ciel, des météorites et des choses comme ça, il y en a tout le temps, et personne ne s'est plaint jusqu'à présent.
Enfin, oui, des débris dans l'espace qui rentrent dans l'atmosphère, il y en a pas mal aussi. Hein.
Voilà, donc ne nous inquiétons pas, c'est pas le moment de faire des réserves de conserve dans sa cave et des choses comme ça, ça va aller. Enfin, j'espère. Sébastien a un doute.
Tu dis que personne s'en plaint, il y en a quand même une qui s'était écrasée en Russie, qui avait fait quand même pas mal de morts. Hein.
Les dinosaures sont pas contents aussi.
Ah. C'est vrai qu'en Russie, il y a eu.
Il y a eu un
drame. Il y en a qui s'en sont plaints quand même.
Oui. Mais bon, voilà. C'est
enfin, ils s'en sont plaints.
C'est rare quand même. Mais non, ils ne s'en sont pas plaints. C'est pas bon. C'est compliqué. Ce 160e épisode est compliqué.
On continue avec un autre tweet qui m'a fait rigoler, de Koya Week at fan de Sasa, qui dit:
dans la vie, il y a des choses qui font consensus et celles qui font qu'on s'en branle.
On continue avec un tweet un peu régional qui a été liké par mon ami Thibaut Suffard. Un tweet d'Elé, at Elekem29, qui dit:
je suis sûr, quand le Titanic il a coulé, il y avait des Bretons dans l'eau et ils ont fait:
waouh, vous savez, quand on est dedans, elle est bonne, hein.
C'est mignon. C'est mignon. Hein? Parce que bon, l'eau en Bretagne, hein, c'est vrai qu'elle est bonne une fois qu'on est dedans, quoi.
Ouais.
vous avez écouté cet épisode jusqu'ici, d'abord, bravo et merci. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et un cœur sur SoundCloud. Cela m'aide énormément. À la semaine prochaine.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Oh!